Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
1983-2011, cela faisait près de trois décennies qu'une grande rétrospective n'avait pas été consacrée à Édouard Manet, l'inventeur du moderne. Bonjour Franck.
L'inventeur du moderne. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est en tout cas le titre que Stéphane Guégan, son concepteur, a donné à l'importante exposition qui se tient donc en ce moment au musée d'Orsay. Reste à savoir ce que l'on met derrière ce terme de moderne. Vous allez voir que c'est peut-être un peu moins évident que ce qui y paraît. Puisque Stéphane Guégan nous fait l'amitié d'être dans ce studio, je vais lui laisser le soin de nous révéler qui était vraiment Édouard Manet, un artiste à l'image de son temps, à la fois bourgeois et révolté, romantique et éperdu de reconnaissance. C'est un personnage complexe, vous allez voir.
Alors, vous connaissez le titre de l'émission Au cœur de l'histoire et vous savez que vous pouvez nous adresser vos messages via notre page Facebook ou bien entendu sur le site internet d'Europe 1. Si vous avez des questions sur Édouard Manet ou des anecdotes à son propos, c'est le moment de les envoyer.
Édouard Manet, que l'on enterrait à l'âge de 51 ans au printemps 1883, comme un artiste fondateur, adoubé par Baudelaire, Gautier, Mallarmé. Son cercueil était porté, entre autres, par Zola, par Monet, par Degas.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Manet, disons-le clairement, est né dans un siècle bourgeois, au temps du roi bourgeois, Louis-Philippe, au sein d'une famille bourgeoise du quartier bourgeois de l'actuelle rue Bonaparte, on disait à l'époque la rue des Petits Augustins. Autant dire qu'il est un pur produit de ce milieu, de cette culture, je n'ose pas dire de cette civilisation qu'a pu être la bourgeoisie française du 19e siècle. Son père, Auguste Manet, est haut fonctionnaire au ministère de la Justice. Sa mère, née Fournier, est fille d'un diplomate qui était en poste à Stockholm au moment de sa naissance, ce qui lui vaut d'être la filleule du roi de Suède. Bref, vous voyez que nous sommes dans une bonne famille bien établie. Dans cette famille de juristes, les carrières sont d'ordinaire toutes tracées, mais comme le petit Édouard déteste le droit, eh bien on se dit qu'en devenant, lui en tout cas, se dit qu'en devenant marin, il aurait peut-être une chance d'échapper au carcan, de s'évader des cadres un peu trop étriqués pour sa vaste imagination que la famille lui a programmée. Malheureusement, il échoue au concours de la marine à deux reprises et entre ces deux piteux échecs, c'est comme simple pilotin, c'est un élève officier de 16 ans à peine, comme pilotin qu'il embarque sur un navire école à destination de Rio de Janeiro. Il va exercer ses talents non pas de marin, il excelle davantage dans les croquis de voyage, dans les dessins que dans les nœuds marins. Il faut vous dire qu'Édouard, comme son frère Eugène, a été marqué, son père dirait dévoyé, par la personnalité un peu frondeuse, passablement artiste d'un oncle maternel, le capitaine Édouard Fournier, bien trop fantasque aux yeux du père et de surcroît monarchiste, une plaie aux yeux des très républicains Manet. Monsieur Auguste finira néanmoins par s'incliner de guerre là et par accepter que cet impossible fils se voue à ce qu'il aime par-dessus tout, pour ne pas dire essentiellement, l'art. Édouard fera les beaux-arts, se dit le bon juriste. Eh bien, une fois encore, il se trompe, car Édouard ne se voit pas du tout préparant un nouveau concours, fût-ce l'école de Rome. Lui décide d'entrer dans l'atelier de Thomas Couture. Il n'y entre pas seul du reste, mais aux côtés de son vieux camarade Antonin Proust. Antonin Proust, juste toute petite parenthèse, c'est le futur secrétaire de Gambetta dont on a eu l'occasion de parler ici. Il sera notre premier ministre de la Culture. Il était son vrai titre, il était secrétaire d'État aux Beaux-Arts. C'est le premier de toute l'histoire de France. Je ferme la parenthèse. Alors, qui est ce maître qui va s'occuper d'Édouard Manet? Quel genre de peintre est Thomas Couture? Eh bien, c'est un peintre académique, répondront les gens polis. Les autres diront carrément un peintre pompier. Au moment où le jeune Édouard Manet devient son élève, Thomas Couture vient de connaître la gloire avec une toile immense intitulée « Les Romains de la décadence ». Pour peu que vous connaissiez un petit peu le musée d'Orsay, vous n'avez pas pu la manquer.
Thank you.
Un extrait des Jeux d'enfants de Bizet sur Europe 1.
Les Jeux d'enfants, on est bien dans l'atmosphère, dans l'ambiance. J'ai envie de dire, nous sommes dans la couleur. Alors, puisque Stéphane Guégan nous fait l'amitié d'être des nôtres. Bonjour Stéphane Guégan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici. Vous êtes donc conservateur au musée d'Orsay et commissaire de cette exposition Manet, inventeur du moderne. Le moderne avec un grand M. C'est en tout cas comme ça qu'il apparaît dans l'histoire de l'art. C'est la façon dont le présentent généralement les articles d'encyclopédie. C'est celui par qui la modernité est entrée dans l'art. C'est un petit peu moins simple que ça, d'après ce que vous nous dites.
Effectivement, le mot moderne veut tout dire et donc ne plus rien dire aujourd'hui. Le moderne auquel je pense, ce n'est pas le XXe siècle. Ce n'est pas le regard que portait André Malraux, par exemple. Mm-hmm. Vous avez parlé d'un ministre de la Culture. Ce n'est pas le regard d'André Malraux qui faisait de Manet l'homme qui avait tourné le dos à la tradition, l'homme qui avait tourné le dos à la représentation, l'homme qui avait tourné le dos au sujet, la peinture pure. Avec Manet s'ouvrait, au fond, l'avènement de la peinture pure. Le moderne dont je parle, c'est celui de Baudelaire, de Zola, de Mallarmé, c'est-à-dire le temps présent, la vie présente. Comment peut-on faire entrer dans la peinture et dans la grande peinture, celle qui s'adresse encore à l'esprit, à l'âme et pas simplement aux yeux, la vie contemporaine, les mœurs contemporaines, le nu, la prostitution, pourquoi pas, l'actualité politique.
Les cabarets.
C'est précisément le défi que Manet se lance. Ce que j'ai cherché à rappeler en le rapprochant immédiatement de son maître Thomas Couture, au rebours de toute une tradition, vous l'avez rappelé, c'est que le romantisme, dont Couture était au fond... une réincarnation,
un épigone,
assez inspirée, en tout cas énergique, c'était déjà posé cette question. Comment peut-on renouveler la peinture d'histoire en intégrant, au fond, la vie contemporaine?
Alors, ce Thomas Couture, je l'ai présenté comme peintre-pompier, je ne pense pas lui faire injure du tout, il est véritablement cela, il est un des grands académiques de ce milieu du XIXe siècle.
Oui, c'est aussi une illusion introspective qui fait de lui un peintre-pompier.
Voilà, oui.
Je me permets de le souligner, je suis là pour ça. Dans la mesure où il est plutôt vu, au moment par exemple où il peint les Romains de la décadence, cette grande page, ce grand banquet, cette grande orgie finissante, comme celui qui renouvelle...
Gigantesque. Toi, aussi décadente que le sujet qu'elle traite.
Exactement. Très vénitienne par le grand portique. Très, très dissolue aussi par le sujet lui-même. Très coloré par le style. Et très réaliste, comme le disent les critiques. Théophile Gautier, par exemple, en 1847, qui compare ce tableau à la peinture du Nord, à la peinture espagnole. Et bien sûr, pour nous autres, qui connaissons déjà ce que Manet va faire de l'enseignement de Couture, ce rapprochement est significatif. Ce qui veut dire que Couture n'est pas vu comme un peintre-pompier, un représentant d'une peinture d'histoire essoufflée, mais comme celui qui cherche au contraire à réinsuffler une forme de réalisme dans la grande tradition.
Voilà. Alors on va voir quel type de maître il était et ce que Manet a appris auprès de lui dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Édouard Manet, le peintre du temps présent, est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1, Franck.
Et ce jeune Édouard Manet, il a bien fallu qu'il fasse ses armes quelque part. Et sa bottega à lui, son l'atelier dans lequel il a commencé par travailler, c'était celui donc de Couture, personnage qui n'était pas, vous nous avez dit, Stéphane Guégan, de son temps considéré comme peintre-pompier, mais au contraire, une sorte de rénovateur de ce grand genre, en quelque sorte.
Un rénovateur en plus, qui a su convaincre le nouveau régime. Manet a 18 ans quand il entre chez Couture, nous sommes en 1850, la République a un an.
Qui ne va pas durer longtemps, puisque très vite Napoléon III va la transformer en Second Empire.
Oui, et d'autant plus que Napoléon III est déjà président de la République. Et ce qui d'ailleurs inspire au jeune Manet sur son bateau, des réflexions pessimistes. Est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte va nous ramener l'Empire, dit-il à son père. Il était assez prophète de ce point de vue-là. Pour revenir à Couture, Couture est l'homme du régime. Il reçoit des commandes, de grands tableaux patriotiques. Il est l'ami de Michelet, de l'historien. Il est le portraitiste de Michelet. Mais c'est un homme aussi qui a fait carrière au salon en montrant des portraits. L'exposition les montre, ces portraits. Ces portraits sont sensiblement proches de ce que Manet va peindre en 1850, c'est-à-dire des tableaux avec au visage très éclairé, peints de façon très énergique, et où déjà on sent que les indices du monde moderne, le costume noir, les accessoires de la mode, sont présents. Sont présents et adoptés pleinement et franchement par la peinture. Donc Couture a été aussi un maître en modernité.
Et ça, c'est quand même assez inattendu, c'est vrai, il faut le souligner.
Ça surprend un peu les visiteurs.
Ça surprend, oui. Vous avez d'ailleurs vous-même une salle dans l'exposition consacrée...
C'est la première fois où l'on donne aux visiteurs la possibilité de comparer sur les murs l'œuvre de Couture et l'œuvre du jeune Manet. C'est la première fois d'ailleurs que nous faisons venir en France certains tableaux du jeune Manet qui n'avaient jamais été montrés parce que, au fond, mes prédécesseurs, qui les connaissaient, les méprisaient un peu ou les tenaient pour des œuvres secondaires.
Alors, l'une des grandes inspirations premières de Manet, en tout cas chronologiquement, c'est l'Espagne. Ce sont des peintres comme Velázquez ou Goya. La touche de Velázquez se retrouve tout simplement dans celle de Manet. Et les thèmes aussi, la façon de peindre d'une façon générale. Il y a quelque chose de néo-Velázquez chez Manet.
Bien sûr. Alors, vous avez parlé du roi bourgeois de Louis-Philippe. Il faut dire à nos auditeurs que c'est aussi Louis-Philippe qui, sur ses deniers propres, en 1838, au Louvre, face à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, rassemble 400 tableaux espagnols. La fameuse galerie Louis-Philippe, dont Baudelaire parle dans sa critique d'art, et qui a été une révélation pour les Français de 1830. Je pense que Manet l'a vu in extremis. La collection est restée quelque temps après la Révolution de 48. Louis-Philippe voulait vendre ses tableaux à la République. Ils ont été restitués à Louis-Philippe, qui les a vendus à Londres. Et c'est un choc, un véritable choc. Il suffit de relire la presse de l'époque pour les contemporains. Et Manet va... je pense être définitivement marqué par cette peinture noire, ces fonds neutres, cette façon de brusquer les corps, les lumières.
De les projeter.
Lumières, oui. Et puis, bien avant d'ailleurs de découvrir l'Espagne, il n'ira en Espagne qu'en 1865, les sujets eux-mêmes, comme vous l'avez dit, la corrida, les danseuses,
les matadors,
les brigands, les gitans. Ce monde interlope qui va passer au fond de la peinture espagnole à Manet, parfois par le biais de son ami Baudelaire.
Finalement, on peut dire qu'il y a quelque chose de très proche de Bizet dans cette inspiration-là, de Mérimée aussi pour le nouveau régime.
Vous ne savez pas si bien dire, puisque dans l'exposition, nous montrons le portrait d'une chanteuse, d'une diva, Émilie Ambre, que Manet a peint in extremis, et elle avait exporté Carmen et Bizet aux États-Unis.
Extrait de Carmen, non, tu ne m'aimes pas, de Bizet, interprété par Julia Méguenès et Placido Domingo, Franck.
La liberté, thème central de cette Carmen, et thème central incontestablement de la vie même de Manet, qui a constamment cherché cette liberté, aussi bien dans sa vie que dans son œuvre, évidemment.
et que dans ces thèmes, l'œuvre parle. L'œuvre par laquelle le scandale arrive, Le déjeuner sur l'herbe, en 1863, est un grand tableau qui lève le voile sur un trait de mœurs, précisément ce que la peinture du Grand Empire ne montre pas. Quatre jeunes gens sur l'herbe.
Il s'inspire du reste d'un tableau très ancien et bien connu. Mais là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a habillé les jeunes gens, laissé la jeune femme très dénudée, et l'a fait ressortir littéralement de la toile.
Les deux jeunes femmes.
Les deux jeunes femmes,
s'il
y en a une qui est
l'une qui prend un bain.
Dans le bain, oui. Dans l'eau.
Du reste, il faut peut-être rappeler que le premier titre de ce tableau, c'est Le Bain. Ce qui veut dire que le public de 1863 était, au fond, invité à regarder avant tout les baigneuses. Et notamment ce qui, chez ces baigneuses, se distinguait des tableaux anciens, des tableaux classiques que Manet, au fond, cite Raphaël, Titien, Giorgione. Ce qui distingue Manet de ses sources classiques, c'est précisément cette forme de réalisme, cette forme de vérité, vérité accusée par le style même de Manet. Hein, peinture abrégée qui joue des contrastes de tons, des contrastes de lumière. Et tout ça dans le grand format, celui qui était réservé au sujet noble. Donc, tout était, au fond, réuni pour scandaliser.
Scandale, et ça a marché, c'est beaucoup plus dire.
La légende commence.
Tout le monde y est allé de sa phrase assassine. Ouais, il y en a d'ailleurs d'assez terrible.
Bien sûr, drôle, très inspiré.
Et quelques défenseurs, néanmoins.
Quelques défenseurs, pas nécessairement parmi, je dirais, les ténors de la presse de l'époque, hein, qui ont du mal à avaler, à digérer cette peinture, mais plutôt parmi des critiques que nous redécouvrons, au plus obscur, mais qui appartiennent à la génération de Manet et qui sentent qu'il y a là, au fond, le peintre de l'avenir. Hein, même si ils ne trouvent pas les mots immédiatement pour le dire. Hein, c'est ça qui me frappe et c'est un cas unique dans l'histoire de l'art. Avant lui, Géricault, Delacroix avait immédiatement suscité une forme d'adhésion chez Manet ou avec Manet. On a du mal à comprendre et à le dire.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec à la une aujourd'hui sur Europe 1, l'inventeur du moderne, le peintre Édouard Manet, Franck.
Édouard Manet qui fait donc l'objet de cette très grande exposition au musée d'Orsay. Jusqu'à quand, Stéphane Guégan ?
Le succès aidant, le succès aidant, pardon, on la prolonge de 15 jours, donc jusqu'à la mi-juillet.
Oui, très bien. Ça laisse un tout petit peu de temps encore à nos auditeurs, mais enfin, il faut pas perdre de temps, surtout avec ces très grandes rétrospectives, évidemment. Le conseil, c'est de venir tôt.
Tôt ou tard.
Carrément.
Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Tôt ou tard, oui, puisque précisément le mardi et le samedi, nous ouvrons en nocturne d'exposition.
Les modèles que choisit Édouard Manet sont des personnes de son entourage immédiat. Et d'ailleurs, son premier grand tableau, c'est son père et sa mère.
Dans un double portrait envoyé au salon et qui lui vaut d'ailleurs une première forme de reconnaissance chez les critiques de l'époque, même si l'un d'entre eux trouve l'image un peu sinistre et se demande si Manet n'a pas cherché, au fond, à presque... bousculer les conventions du portrait bourgeois. Et il dit, au fond, que c'est une plaie que la peinture réalise, puisqu'elle ne respecte rien, pas même, au fond, l'image de ses parents.
Propres parents, oui. Ouais. Alors, évidemment, on retrouve son jeune frère Gustave, on retrouve son beau-frère sur certaines toiles. Lorsqu'on commence à les connaître, on les repère assez facilement. Ouais. Et dans un portrait d'enfant, alors là, figure un personnage, c'est l'enfant, le portrait, en l'occurrence, c'est l'enfant à l'épée.
L'enfant à l'épée.
Et le personnage, c'est le petit Léon. Alors, qui est-il, ce Léon ?
Alors, il y a un véritable débat autour de ce Léon.
Pour ne pas dire une énigme, disons-le.
Une énigme, une belle énigme, d'ailleurs, un peu agaçante, comme toutes les énigmes. Alors, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il est le fils de Suzanne. Suzanne a été le professeur de piano des fils Manet. Elle est devenue la compagne, la maîtresse du peintre, avant de devenir son épouse. À la fin de l'année 1863, qui est donc une année clé pour Manet. A-t-elle eu une relation avec le père de Manet ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui, ce qui débouche sur deux hypothèses. Léon est peut-être le fils caché du peintre, Édouard, ou le demi-frère du peintre, et donc le fils de son propre père. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois que Léon apparaît dans la peinture de Manet, eh bien, l'atmosphère, au fond, suggère précisément cette énigme. Quelque chose qui relève du roman privé de cette famille très bourgeoise, vous l'avez rappelé. Léon n'est pas un
Léon
modèle Léonoff, innocent.
Du nom de sa mère.
Oui.
Et en l'occurrence, il appelle Édouard parrain.
Oui, et pour accroître le mystère finalement de ce destin, c'est que Léon lui-même s'est toujours pensé, non pas le fils de Suzanne, mais le frère. Et il a découvert son identité pratiquement après la mort de sa mère biologique. Donc il n'a pas pu nous éclairer sur son propre père. Il a toujours vu en Manet un parrain généreux, attentif, presque un père. Donc le mystère est complet.
Et Suzanne Léonoff a été le grand amour de la vie de Manet ?
Sans doute. Sans doute, on l'a parfois mis en doute parce que on considère, mais ce sont des regards rétrospectifs, qu'elle est un peu ingrate sur certaines photographies. Mais manifestement, elle avait du chien, comme on dit aujourd'hui. Elle avait surtout un grand talent de musicienne. Elle était très proche de son mari. Les lettres que Manet lui envoie pendant le siège de 1870-71 sont très émouvantes. Et on peut toujours spéculer sur la vie amoureuse de Manet, puisqu'il a vécu entouré de femmes et de très jolies femmes jusqu'à sa mort. Une chose est sûre, c'est qu'il est resté fidèle, à certains égards en tout cas, à Suzanne.
Je crois que c'est Claude Monet qui dit qu'à la toute fin de sa vie, la seule chose qui pouvait l'égayer et le remettre en forme, c'était la présence d'une femme, justement.
Oui, et il avait cette réputation parmi les peintres parisiens d'être à l'aise dans la compagnie des femmes.
Il les a tellement bien peintes.
Et pour qu'un critique le souligne dans un article de presse, c'est que ça devait sembler une singularité.
Oui, c'est vrai, ça n'était pas...
Ce que l'on sent dans sa peinture, vous avez raison, c'est le plus important. Il y a, dans la peinture de Manet, non seulement la parisienne, et notamment la parisienne de la Troisième République d'ailleurs, mais aussi toutes sortes de femmes, des serveuses de boc, des chanteuses, des prostituées. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais enfermé dans la moindre chapelle esthétique et sociale.
Il y a aussi, évidemment, Berthe Morisot.
Alors, Berthe Morisot, autre énigme, autre belle énigme. J'en reste à la thèse minimale qui consiste à dire qu'il y a entre eux une sorte de flirt pictural. Nous l'avons d'ailleurs en partie recomposé dans l'exposition.
Vous avez fait se répondre les
Voilà,
les
on
toiles.
A fait se répondre. Elle apparaît dans le balcon, le fameux balcon, qui est un tableau très espagnol, à la Goya, en femme fatale. Hein, c'est le mot qu'elle emploie pour décrire l'expression que Manet lui a conféré. Et puis, il y a toute une série de portraits où Manet joue avec elle, met en scène même son deuil, met en scène sa séduction, hein, le jeu des éventails. Et puis, 1874, elle décide d'épouser l'un de ses frères. Et le roman pictural cesse. Parce que nous sommes, vous l'avez rappelé, dans un milieu bourgeois qui a ses règles. Et à partir du moment où elle devient la belle-sœur du peintre, il cesse.
Ça, c'est une chose que moi, j'ai du mal à suivre avec Manet. C'est qu'on a constamment l'impression que ce personnage est un rebelle, est un révolutionnaire. Vous avez insisté sur son côté républicain. Moi, j'ai parlé de son goût, son amour de la liberté. Donc, il y a cette espèce de côté tout à fait libre. On l'a vu au moment de la Commune, par exemple, etc. Et puis, simultanément, quand même quelqu'un qui a totalement hérité les mœurs de ce milieu bourgeois. Et avec des cadres quand même extrêmement, extrêmement fixes. J'ai presque envie de dire qu'on peut transposer ça à l'œuvre. De la même façon, l'œuvre explose dans tous les sens, mais conserve un certain nombre de structures, de règles.
Bien sûr. Vous savez, on a souvent vu en lui le dernier des classiques, hein, avant de voir le premier des modernes. Ce sont des catégories qu'il faut d'ailleurs utiliser avec précaution. Une chose est sûre, c'est qu'il a existé en France, au XIXe siècle, une grande bourgeoisie radicale, de culture catholique, parfois, c'est le cas de Manet, et qui respecte un certain nombre de règles.
Alors, nous allons voir, juste après le flash de 14 heures, que Manet était aussi un peintre d'histoire, qu'il adorait peindre la mer, qu'il écrivait aussi, qu'il avait un cercle d'amis très influent, qu'il était extrêmement attentif à l'image qu'il pouvait donner et à ce qu'on écrivait de lui. Et puisque vous êtes, Stéphane Guégan, l'auteur d'une très belle biographie de Théophile Gautier chez Gallimard, nous parlerons aussi de ses rapports avec Théophile Gautier. Voilà le programme à propos de cet Édouard Manet autour duquel nous cheminons. Cet après-midi.
A tout de suite, Franck, 14h sur Europe 1 et merci à tous de votre fidélité. Europe 1.
14h30 sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et dans le cadre de l'exposition Manet, inventeur du moderne au musée d'Orsay, son concepteur Stéphane Guégan est toujours votre invité, Franck, sur Europe 1.
Oui, Stéphane Guégan, à défaut d'avoir le plus grand collectionneur des œuvres de Manet, en tout cas de son vivant, c'était Jean-Baptiste Faure. Il faut en dire un mot peut-être de ça.
Oui, on a parlé de musique, on a parlé de Carmen, d'Émilie Ambre et Faure. En 1874, précisément.
C'est un chanteur. Hein, donc.
Un chanteur, grand baryton, notamment célèbre pour sa performance dans l'Hamlet d'Ambroise Thomas. Ambroise Thomas bien oublié aujourd'hui, mais qui faisait les délices de Bernstein, le musicien américain et grand chef. Et donc Ambroise Thomas se passionne en 1974, il découvre au fond, avec étonnement sans doute, la peinture de Manet. En 74, et commence à acheter ses toiles. Il en aura à peu près une quarantaine après la mort du peintre. Et certains tableaux, d'ailleurs, ont fini dans les musées américains via Durand-Ruel au début du XXe siècle. Simplement, c'est un signe d'intérêt majeur pour la communauté des collectionneurs. Au milieu des années 70, les choses ont changé pour Manet. Il n'est plus simplement le refusé des années 60, il est devenu presque, non pas une valeur sûre, mais en tout cas un artiste sur lequel on peut miser.
Voilà, c'est ça.
On peut miser. Durand-Ruel, d'ailleurs, vient de lui acheter 25 tableaux. Et c'est la raison principale pour laquelle Manet ne rejoint pas les impressionnistes.
Encore une sorte de contradiction.
Une autre contradiction, oui. Ouais.
Oui, il n'est pas impressionniste. Non. Alors là, je ne veux pas vous tendre la perche, mais enfin, un léger couplet quand même sur cette affaire, puisqu'on veut toujours faire de Manet le premier des impressionnistes, celui qui aurait lancé le précurseur.
Le précurseur. C'est donc une idée contre laquelle donc, cette exposition aussi se dresse. Je parle dans l'exposition d'impressionnisme piégé, au sens où, bien sûr, Manet, qui a d'ailleurs été vu par ces jeunes gens comme l'homme qui avait ouvert la voie à la nouvelle peinture, les regarde, les examine. Hein. Il rend visite à Monet en 74, à Argenteuil. Il peint plusieurs portraits de Monet, comme s'il voulait comprendre comment cette peinture fonctionnait. Et puis, il fait entrer dans sa peinture et dans les grands tableaux qu'il destine au salon les sujets de l'impressionnisme.
Alors voilà.
Argenteuil.
Et ça, je voudrais, évidemment, nous faisons une émission de radio, donc c'est toujours un tout petit peu délicat d'évoquer des choses éminemment visuelles. Mais, je pense qu'une partie de nos auditeurs connaît bien Manet, mais même pour ceux qui le connaîtraient mal ou très peu, il faut avoir l'idée de l'esthétique de Manet. Ces espèces comme ça, d'abord cette touche très vive, très empâtée, hein, quelque chose de, il y a de la matière sur la toile, il y a des couleurs sur lesquelles on est loin de l'aquarelle, hein. Ce sont des couleurs qui sont souvent très opaques, volontairement des bleus tirant vers le gris, des couleurs très ocre comme ça, avec de grands aplats de couleurs, des personnages qui se détachent, des poses et des postures qui sont volontiers comme plaquées sur la toile, hein. On a l'impression parfois même d'un manque de naturel, d'ailleurs, hein, dans certaines poses et dans certaines attitudes. On peut parler même, lorsqu'il peint la célèbre maîtresse de Baudelaire, vous parlez d'un pantin qui serait un peu désarticulé. Hein, ça donne un peu cette impression. Quels sont les grands thèmes de cette peinture? D'abord, des thèmes historiques. Nous sommes dans une émission d'histoire, profitons-en. Mais quand je dis des thèmes historiques, ce sont des thèmes historiques empruntés à l'actualité de l'histoire.
Oui. Oui, c'est d'ailleurs sa vraie spécificité. Il s'est voulu un peintre d'histoire, bien sûr. Il s'est d'abord voulu un peintre d'actualité. C'est un terme d'ailleurs qui circule dans la presse de l'époque. Manet nous fascine par sa capacité à réagir. À réagir immédiatement à ce qu'il lit dans les journaux, à ce qu'il observe de temps en temps, mais principalement à ce qui fait, au fond, le cœur même des conversations sur le boulevard ou dans le monde qu'il fréquente. C'est un homme donc qui est proche de Gambetta sous le Second Empire, qui va prendre l'uniforme pendant la guerre franco-prussienne, qui va observer non pas la Commune ni la Semaine sanglante, mais la répression qui suit. Et puis, tout au long des années 70, il est toujours « on the spot », comme dirait Baudelaire, c'est-à-dire à la recherche de ce qui, au fond, peut donner à sa peinture une dimension sensationnelle. D'ailleurs, c'est le mot qu'utilise Monet à propos de l'évasion de Rochefort, sur laquelle l'exposition se referme.
Il faut dire qu'il était Rochefort.
Est un opposant à Napoléon III.
Lui, grand pamphlétaire.
Grand pamphlétaire, grand acteur de la Commune, lui. Et puis, à ce titre, donc, exilé.
À Cayenne.
À Cayenne, dont il s'évade. Et puis, dès que le gouvernement de la Troisième République de Jules Grévy vote l'amnistie, il revient. Et Manet se jette littéralement sur lui parce qu'il sent qu'il y a là un sujet.
Il interview, il se documente, il
rencontre ceux qui ont pris le bateau avec Rochefort pour quitter la Nouvelle-Calédonie. Et donc il fait ce tableau et Monet, qui voit le tableau en gestation, dit « Manet est en train de peindre un tableau à sensation pour le salon ». Ça veut dire que ces grands tableaux d'histoire combinent
la conviction et
la sensation.
C'est ça, il s'est renseigné Manet, il a voulu savoir à quoi ressemblait le bateau en question. On lui a dit « c'est une baleinière qui était gris-bleu, justement, avec huit hommes dont six rameurs ». Donc il sait tout ça, et à partir de là, il nous sort une toile
moins descriptif qu'on pourrait en rêver, c'est ça.
Je la cherche là dans le somptueux catalogue de cette exposition.
Le tableau, je l'ai plus là, mais je l'ai à
l'esprit. On voit en gros que de l'eau sur la toile. Quand je dis une eau, c'est une eau très minérale, reste. Très minérale, je veux dire, qui ressemble à de la pierre, qui est très, très épaisse comme ça.
Pour être complet, il faut tout de même rappeler qu'il a peint deux tableaux. L'un presque abstrait et très poétique, très décanté, c'est la barque qui s'éloigne dans une atmosphère un peu rêveuse. Et puis l'autre, au contraire, centré sur les figures, centré sur Rochefort et ses compagnons d'aventure. Et on sent bien là les deux Manets, les deux peintres qui cohabitent en Manet, l'artiste qui travaille pour une clientèle privée et qui va se contenter d'un tableau très esquissé. Et puis le tableau destiné au salon, centré sur le sujet et sur la sensation du sujet.
Alors je cherchais donc cette évasion de Rochefort et je tombe sur le combat du Kearsarge et de l'Alabama, grande marine finalement, un tableau assez étonnant aussi, avec toujours cette dimension hyper présente de la mer. C'était des réminiscences de sa carrière avortée de marin.
Sans doute parce que quand on lit la correspondance, les lettres qu'il envoie à ses parents, il a 16 ans, il parle beaucoup de la mer, de la surface luminescente de la mer le soir. Il a des termes très, très poétiques pour exprimer ses sensations et ses idées. Et puis, dans ce tableau...
Du reste, c'est intéressant, parce que, pardon, il écrit comme il peint.
Il peint, voilà.
Et après,
il peindra comme il aura écrit, effectivement. Et ce qui est frappant dans ce tableau, c'est la façon dont il bouscule les ficelles, si j'ose dire, du genre de la marine. D'abord, c'est un grand tableau. Le sujet lui-même est au fond sur la ligne d'horizon. Et on voit un bateau français d'ailleurs, qui vient à la rescousse au fond des victimes. Et puis, quand on regarde bien la surface de l'eau, on sent les fonds marins. Et ça, c'est l'expérience de la mer, parce qu'il a peint ce tableau à Paris.
Et voilà, loin de tout modèle.
Comme il l'écrit, j'ai deviné le Kearsarge.
On peut dire, en vous entendant, quoi de neuf, Manet.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et on poursuit notre découverte de l'œuvre de Manet, Franck.
Exactement. Alors, et en l'occurrence, nous allons voir comment Manet écrivait. Parce que c'était aussi, bien sûr, on est à l'époque où la correspondance est très importante. Et Manet écrivait des lettres passionnantes, comme nous le prouve une exposition qui a lieu en ce moment au Musée des Lettres et des Manuscrits, qui s'appelle « Des lettres et des peintres », sous-titré « Manet, Gauguin, Matisse, point de suspension, confidence de 40 artistes ». Nous avons la commissaire de cette exposition en ligne. Bonjour Estelle Gaudry.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci d'être avec nous. Je passe mon temps en ce moment au Musée des Lettres et des Manuscrits et j'ai donc pu voir et admirer, contempler cette exposition sur les lettres de peintres. Nous avons parlé hier de l'histoire de Gutenberg, de toute l'histoire du livre, etc. Ça fait l'objet d'une grande exposition qui est en
très
ce moment,
exposition.
Qui se promène à travers la France et aujourd'hui elle est à Lyon-Perrache. Pour nos auditeurs lyonnais, je le signale, vous allez à la gare de Lyon et vous verrez sur le quai numéro 1 un très grand train. Là-dedans, il y a toute une exposition et notamment un certain nombre des trésors, des chefs-d'œuvre du Musée des Lettres et des Manuscrits. Alors pardon d'avoir fait cette parenthèse, Estelle Gaudry. Vous nous présentez, vous, des lettres d'une quarantaine de peintres. On se rend compte que ces lettres sont d'ailleurs parfois illustrées, elles sont très belles, etc. Mais on se rend compte surtout que tous ces peintres sont d'abord de grands épistoliers. Ils savent écrire.
Oui, en effet, ils savent tous tous écrire. Ils écrivent dans l'ensemble aussi très bien au niveau de la graphie. Ils ont une très belle graphie. Et ça, c'est beaucoup d'émotion, justement, de découvrir la graphie de ces peintres dont on connaît essentiellement les toiles.
Alors, parlez-nous de celle de Manet, précisément, puisque nous nous intéressons aujourd'hui au cas d'Édouard Manet.
Oui, bien sûr. Mais vous parliez justement de lettre de jeunesse de Manet. On expose une lettre de Manet adressée à sa mère alors qu'il est sur le fameux bateau école. Et on y découvre vraiment toute la sensibilité et toute la fraîcheur dans l'écriture de ce jeune homme de 16 ans qui parle en effet beaucoup de la mer avec beaucoup de poésie.
Vous avez d'autres lettres de Manet, notamment une lettre qu'il écrit pendant le siège de Paris en 1870. C'est assez extraordinaire. Elle est datée exactement du 19 novembre 1870 et elle est adressée à Eva González, véritablement une amie. Hein. Il lui dit « Charmante sœur, croyez à l'amitié de votre tant dévoué Édouard Manet ». Voilà comment il signe cette belle lettre.
Oui, tout à fait. Il lui envoie cette lettre par ballon monté. Il lui relate le
siège. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, il n'y a plus de courrier. Hein, le Paris est complètement assiégé. Le seul moyen, c'est de. Enfin, l'un des très rares moyens, en tout cas, de faire passer du courrier, c'est de les envoyer par ballon.
Voilà, c'est le seul moyen de communication, de les envoyer par ballon monté. Et en effet, avec ce document, on est au cœur des événements et on saisit mieux le traumatisme de cet épisode historique. Et en fait, il lui relate tout ce qui se passe. Et on voit aussi dans cette lettre, justement, un Manet très courageux, puisqu'il s'est engagé comme artilleur pour défendre Paris contre les Prussiens.
Vous avez aussi une lettre de mai-juin 65, je l'ai là sous les yeux, où Manet, qui vient de subir l'accueil tapageur réservé à son Olympia, on n'a pas parlé de ça avec Stéphane Guégan, il y aurait tellement de sujets à aborder évidemment, écrit « J'ai presque envie de partir tout de suite, je suis extrêmement... » Il part pour l'Espagne en l'occurrence, « Je suis impatient d'aller demander conseil à Maître Velasquez, dit-il. »
Oui, il se confie à son ami et critique le peintre Zacharie Astruc, qui, en lui annonçant en effet son prochain voyage en Espagne, au cours duquel il souhaite se ressourcer auprès de ses maîtres. Et on ressent vraiment dans cette lettre que Manet est déçu de l'échec de la réception de l'Olympia au salon, plus que du scandale. Qui a été fait à son œuvre.
Je ne voudrais pas donner de cette exposition une fausse image, évidemment, puisque Manet n'est qu'un des 40 peintres présentés. Vous avez notamment un mur entier magnifique consacré à Gauguin.
Oui, exactement. On a aussi Gauguin, Matisse. On a plus de 40 peintres de 1800 à 1950. Et en fait, on dévoile avec ces lettres un large pan de leur intimité. Et c'était une belle occasion, en effet, de voir un autre aspect de la peinture et de pénétrer dans le monde sensible à travers les mots.
Et en fait, l'intérêt de toutes ces lettres qui sont au Musée des Lettres et des Manuscrits, que ce soit dans les collections permanentes ou de temps en temps dans les belles expositions que vous organisez, c'est que ce sont toujours des lettres pleines de sens. Le but n'est pas seulement de voir à quoi ressemblait la graphie, à quoi ressemblait l'écriture de tel ou tel grand homme ou femme. Ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, les lettres en question se situent toujours à des moments clés, au moment de véritables carrefours de vie, et c'est passionnant. C'est de la vie qui reste en quelque sorte prise, imprégnée sur le papier. Merci beaucoup Estelle Gaudry.
Merci à vous.
Longue vie à votre exposition, donc des lettres et des peintres. C'est au Musée des Lettres et des Manuscrits à Paris, au 222 Faubourg Saint-Germain. Boulevard Saint-Germain, je suis encore à l'époque du Faubourg, mon collègue. Boulevard Saint-Germain, c'est jusqu'au mois d'août, jusqu'à la fin du mois d'août.
Jusqu'au 28 août, oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
On vous retrouve Franck avec Stéphane Guégan qui est votre invité aujourd'hui. Il est conservateur au Musée d'Orsay, pas seulement, auteur aussi d'une très belle biographie je crois.
Oui, alors il est le commissaire de cette exposition Manet. Évidemment, l'inventeur du moderne. Et puis l'auteur notamment d'une très belle biographie effectivement chez NRF Gallimard. Ça s'appelle Théophile Gautier tout simplement. Il faut signaler que nous sommes en ce moment en train de célébrer le bicentenaire de Théophile Gautier. L'homme au gilet rouge de la bataille d'Hernani, le grand dandy par excellence, immense critique non seulement de musique et d'art dramatique, mais bien sûr de peinture. Il est un peu le miroir, le reflet de son temps, ce personnage-là. C'est le critique du Moniteur universel à l'époque du Second Empire. Et évidemment, un homme comme Manet, tellement soucieux de son image, ne pouvait que faire la cour à Théophile Gautier.
Il va le courtiser si bien que c'est au fond Gautier qui lance Manet en 1961 devant le chanteur espagnol du Metropolitan de New York, en disant caramba, caramba, Goya est ressuscité en quelque sorte. Hein. Goya est ressuscité, ce qui était au fond un bon début. Ce que je montre dans le livre, c'est que tout au long des années 60, puisque Gautier va mourir en 72, hein, donc il n'aura vu que le premier moment de l'œuvre de Manet, eh bien il va s'intéresser à Manet, pas nécessairement d'ailleurs en le comprenant toujours, mais il va s'interroger.
Et Manet, très grand chapitre s'appelle Les années Manet.
Les années Manet, parce que au fond, au-delà de la critique d'art de Gautier, vous l'avez rappelé, c'est l'homme Gautier qui intéresse Manet. C'est-à-dire que Gautier a un pied dans l'administration des Beaux-Arts. Il est juré du Salon. Il est l'ami de Baudelaire.
Il est au cœur non pas d'un mais de plusieurs grands réseaux. Or Manet, ça fait aussi partie des choses qu'on aura finalement pas eu le temps d'évoquer, mais Manet est un homme d'amitié et de réseau.
Et d'emblée, et d'ailleurs, il a fait entrer dans sa peinture non seulement sa famille, mais les grands écrivains qui sont aussi des grands critiques, et comme s'il cherchait à les amadouer. Avant même que ces gens-là ne le comprennent, il les fait rentrer dans sa peinture en disant « Je suis l'homme qui incarne la modernité que vous avez prophétisée, vous, Baudelaire, Gautier et tant d'autres. »
Alors, il faudrait parler évidemment de Zola. Qui a tellement défendu l'œuvre de Manet.
Exactement, et qui a même presque affirmé, au fond, le premier catégoriquement, qu'il était destiné au Louvre, ouais. En 66. Devant le refus du Fifre, notamment, tableau célèbre.
Le Fifre, c'est ce joueur de flûteau, là,
voilà,
qui avec le pantalon rouge.
Ce jeune militaire, musicien, très Velázquez.
Tout à fait.
Peint au retour du séjour madrilène, en Espagne, et qui est repoussé par les jurés du Salon.
Et Zola dit, mais en fait, la place de Manet, elle est au Louvre.
Elle est au Louvre. Ouais. Il le dit d'emblée, et un an plus tard, Manet fait son portrait. Et devant ce portrait, Gautier justement comprend tout, comprend comment Manet est un réel stratège des médias.
Mallarmé aussi sera un grand
Mallarmé,
un fan. Si
Mallarmé que Manet croise en 1873 et une amitié donc indéfectible naît cette année-là. Et Mallarmé va, en bon héritier de Baudelaire, être celui qui va chercher à situer Manet dans un autre contexte. Hein. Les impressionnistes sont là, le naturalisme au Salon, et la critique d'art de Mallarmé, si hermétique soit-elle, cherche à maintenir Manet au top.
Montrer justement le côté assez décapant de cette œuvre en la replongeant dans son temps, c'est une des ambitions que vous avez eues.
C'était un peu le défi, dans la mesure où le musée d'Orsay est un musée de civilisation. Hein. Normalement, on est là pour faire comprendre ce qu'est le 19e siècle et non pas accepter pour argent comptant la vision du 20e siècle. Et donc, un Manet, finalement, qui débute dans l'atelier de couture, hein, qui cherche à faire son trou au Salon, qui fréquente et courtise les grands chanteurs, les grands collectifs, les marchands. Donc un Manet vu, au fond, depuis sa propre carrière. Hein, et avec comme ambition aussi de rappeler au public qu'il avait le sens des situations, qu'il s'adapte en permanence.
Cette exposition donc se tient au musée d'Orsay. Je le dis pour ceux qui nous prendraient en cours, hein, parce que sinon on l'a quand même suffisamment dit.
Souligné, oui.
Manet, inventeur du moderne, s'est prolongé jusqu'au 10 juillet 2011 avec un superbe catalogue dans la tranche et noire. Je trouve que c'est une très belle idée. Catalogue publié par Gallimard et chez Gallimard également de Stéphane Guégan. Cette magnifique et impressionnante biographie de l'homme dont on fête le bicentenaire, Théophile Gautier. Merci beaucoup Stéphane Guégan.
Merci à vous.
De nous avoir porter comme ça quelques coups de projecteur sur une œuvre profuse et sublime. Profuse, sublime, comme Faustine Bollard. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, bonjour à tous. On va s'amuser aujourd'hui puisqu'on va parler de ceux d'entre vous qui vivent avec un fan à la maison. Vous êtes marié avec le fan officiel de Johnny Hallyday, Michel Sardou, même de Franck Ferrand. Comment vivez-vous cette passion sans limite? Est-ce que vous en souffrez? De quelle manière cette idole s'introduit-elle dans votre maison? On va en parler. Alors si vous n'en pouvez plus d'écouter l'intégrale de Michel Thor sur la route des vacances, si vous ne supportez plus les Patrick de votre femme qui approche la 50, vous ne pouvez plus voir le brushing parfait de Frédéric François à cause de votre mère. Cette émission est la vôtre. Venez vous lâcher. Vous allez voir que parfois, on parle d'addiction et que ça peut vraiment poser un réel problème à l'entourage, un petit peu plus sérieusement. 3921 en tout cas pour tous vos messages. Et si vous êtes fan inconditionnel de qui que ce soit vous-même, vous nous appelez faustine.europe1.fr.
Moi, je n'en peux plus de Lady Gaga. Merci beaucoup.
Très bien, je partage votre avis. À demain, Franck.
À demain, je